montre la Shoah à mes enfants, en particulier à ma fille. Et j'aimerais pouvoir vous dire que j'en suis débarrassée enfin, que j'écris sur autre chose, que dans ma famille, c'est une histoire ancienne. Et malheureusement, je vois que livre après livre, je me trompe. Quand j'ai publié ce dernier livre, quand j'ai commencé ce projet de mon dernier livre qui s'appelle Mensonge au paradis, qui se passe en Suisse, où j'ai passé une partie de mon enfance parce que mes parents nous confiaient à une famille suisse pour nous protéger de leur propre enfance. Ils ne parlaient jamais de ce qui leur était arrivé. J'étais élevée dans le silence de ce qui leur était arrivé. Oui, enfant, je me souviens que je lisais beaucoup et je lisais beaucoup de l'annuaire. J'ai passé beaucoup de temps dans la chambre de ma mère, il y avait des gros bottins, et je lisais l'annuaire. Je cherchais des noms de. Je ne suis pas la seule. Les noms des identités, des numéros de téléphone, des adresses, des professions. Je cherchais des fantômes. Parce qu'on ne parlait pas de Salomé, on ne parlait pas des autres, on ne parlait pas de ces disparus. Il y avait des fantômes. Et je soupçonnais bien, comme tous les enfants qui devinent tout, qu'il y avait quelque chose à savoir. J'ai écrit l'histoire de Salomé parce que une fois ma mère m'a dit d'une phrase presque sibylline, comme si elle m'avouait un crime qu'elle avait commis. J'étais enceinte de mon fils et de quelques mois, et elle m'a dit d'un ton très gêné, qu'à peine un sourire, si jamais est-ce que tu as une fille, est-ce que je donnerais comme prénom celui de Salomé, ma cousine, dont il ne reste rien. Je lui ai répondu bien sûr, évidemment, mais la jeune femme que j'étais ne m'a pas posé de questions. Je ne voulais pas non plus savoir. Et ma mère est morte 2 ans après, la transmission ne s'est jamais faite. Parce que je crois aussi que, comme beaucoup d'enfants, j'étais plus un enfant, mais d'enfant de victime, je voulais me protéger. J'avais peur que la Shoah m'habille, j'avais envie d'être heureuse, de vivre pleinement. Et il m'a fallu des années et plusieurs livres pour me dire qu'un jour il fallait que, parce que j'avais trouvé dans un dossier de naturalisation un tampon de la commission de naturalisation de mars 43 voulant supprimer la société française de mes grands-parents parce que juif, qu'il fallait que je m'interroge sur ce qu'il y avait de juif en moi, et ce qu'il y avait de juif en moi, c'était la Shoah. Pour vous dire que j'ai mis très longtemps, ça a été difficile, douloureux, et que livre après livre je me dis ça y est, c'est terminé. Ça y est, je veux passer à autre chose et que je ne passe jamais à autre chose. Et pour ce qui est de mes enfants, ma fille a 20 ans, elle s'appelle Salomé, elle porte ce prénom. Et je me souviens qu'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que moi, à sa naissance, je suis rentrée chez moi. J'étais le plus beau bébé du monde, j'étais très très heureuse, je m'endors et je fais un cauchemar où il y a des monstres à ma fenêtre qui veulent s'emparer de ma fille. Je leur casse la gueule, ces monstres. J'ai une grosse barbe et un couteau. Et je me réveille et j'ai compris que j'ai fait peser sur ma fille un drame que je ne connais pas. Et pourtant, voilà, j'ai su ce qui était à la Salomé, j'ai compris. Et souvent, parfois, les gens se trompent, ça s'appelle la réparation, on dit la séparation. Et il me semble que c'est juste, enfin, je l'espère, que mes enfants sont séparés de cette histoire. Bien sûr, je leur ai raconté. Ce qui était arrivé à mes parents, à mes grands-parents, aux cousins et à la cousine de ma mère. Mais je veux dire que pour l'instant, ça les intéresse peu et j'en suis soulagée pour eux. Voilà, excusez-moi, ma réponse est un peu longue.
Oui, alors, je vais me tourner et on va faire un aller-retour, bien évidemment, vers. Laurence Jost Liénard. Alors, il y a une étude qui est sortie en septembre dernier et qui indique que pour beaucoup de jeunes Français, ils sont 3-4%, on parle trop de la Shoah à l'école. Est-ce que ce chiffre de 34%, avec votre expérience, avec ce programme que vous avez mis en place, ça vous interpelle?
Je fais peut-être partie de ces collègues, hein, de enseignants qui en parlent trop, parce que c'est vrai que je n'arrive pas à traiter la Shoah en 2 heures. Je suis tombée dans la marmite en 2015, en fait, hein, où nous avons découvert que dans notre établissement, il y avait un professeur et des élèves qui avaient été déportés. Et donc c'est vrai qu'on peut s'interroger véritablement quand on est enseignant, comment on transmet ? Qu'est-ce qu'on transmet déjà ? Qu'est-ce qu'on transmet ? Je pense que pour moi c'est la première question. Qu'est-ce qu'on transmet ? Et par rapport à la Shoah, bon, la question elle est complexe et la réponse est extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'on transmet ? Comment on transmet ? Et surtout, je dirais, quand on est enseignant, on va se dire qu'est-ce qui va rester ? Voilà. Et le sondage renvoie à ça. Qu'est-ce qui reste par rapport à nos enseignements ? Alors, c'est clair que je n'ai pas du tout le même parcours. Je ne suis pas juive. Je n'ai pas été concernée par la Shoah. J'ai tendance à dire que depuis, en tout cas, 2015, je suis dans la Shoah en permanence. Et en tout cas, je crois que par rapport à la jeunesse, mais peut-être aussi par rapport à des moins jeunes, c'est de savoir, en tout cas moi la question, c'est de savoir comment transmettre. Je ne pense pas que c'est un cours comme un autre, évidemment. Et comment il faut le faire ? Moi, je le fais à travers, on va dire, la recherche. Je travaille depuis 2015 sur les archives de notre lycée, qui nous a fait amener à découvrir finalement un pan de notre histoire locale totalement mis entre parenthèses. Et je pense qu'il y a des convergences finalement, aussi bien dans les histoires familiales que dans les histoires locales ou nationales, il y a des pans d'histoire qui sont totalement occultés pendant des décennies. Et on les fait ressortir à un moment donné. Alors évidemment, pour les familles, c'est extrêmement douloureux. En même temps, je côtoie aujourd'hui beaucoup de familles juives qui m'ont confié des documents. Il y a une attente aujourd'hui. Voilà, il y a une attente, puisque finalement, moi, j'essaie à travers le travail de mes élèves de redonner vie à des êtres humains. Et si vous interrogez sur le terme « transmettre », si la signification du terme « transmettre », c'est passer de 1 à 1. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde, passer de 1 à 1. Alors, évidemment, cette transmission a été mise entre parenthèses, elle a été tue, elle a été taboue aussi, hein, aussi bien dans ceux qui ont été concernés directement que par des gens extérieurs. Mais en tout cas, moi, c'est ma démarche au niveau des élèves de travailler sur des parcours de vie qui vont redonner vie. Et ça, c'est ma motivation. Et comme vous, je dirais, je ne m'arrêterai jamais. Voilà, je ne peux pas m'arrêter, puisque là, j'ai travaillé cette année, je vais continuer à la rentrée 2024. J'arriverai logiquement à la liste exhaustive de toutes les victimes de la Shoah de notre établissement. Hein, et sachant que moi, je viens d'Alsace, du Bas-Rhin, du lycée Adrien Zeller à Bouxwiller, où il y avait une forte communauté juive dans différentes communes. Et c'est une histoire qui est devenue rien. Voilà, zéro. Zéro. Personne n'en parlait. Moi, j'ai été nommée en 2003. Il faut que j'attende 2015 pour qu'il y ait résurgence de vies qui ont été brisées.
Comment vous avez découvert cette classe et ce professeur ?
En fait, il y a des élèves, à l'époque, il y avait des TPE, hein, donc des travaux personnels encadrés, donc des élèves veulent travailler sur la Seconde Guerre mondiale. Puis ensuite, ils veulent travailler sur les civils. Alors, je leur ai dit, bon, c'est un peu très, très vaste. Et donc, nous avons un fort patrimoine juif, hein, cimetière, synagogue, musée judo-alsacien. Et donc, je vais utiliser le terme hasard, même si, évidemment, il pose vraiment problème en matière religieuse et en matière avec le judaïsme. Mais le grand rabbin Rolvay de Strasbourg me dit toujours que Dieu est « deux » et « des » et « derrière tout ». Voilà, donc je continue mon chemin. Et là, la documentaliste me dit qu'il y a des enveloppes hein, qui sont au CDI et on dépouille 1939-1940 et on trouve des documents qui attestent du Judenfrei, donc qui attestent que l'Alsace doit être libre de tout juif. Ce qui signifie pour ceux qui restaient qu'ils soient expulsés. Et l'intérêt par rapport à votre question, c'est qu'en fait, on trouve le courrier d'Hugo Leitner qui demande de recenser les personnels juifs et trop francophiles. Et notre chance, c'est qu'on trouve la réponse. Et dans cette réponse, donc, il y a quatre noms d'enseignants et parmi lesquels un professeur de lettres classiques, Maurice Bloch, et un rabbin, professeur de religion Max Guggenheim. Et là, c'est le début de l'histoire, puisque moi, disons, voilà, c'est l'historienne qui va repartir. et c'est une enquête policière pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Voilà, et donc c'est le début de l'histoire en fait.
Alors, si vous voulez, on va lier, on va essayer de poser des questions qui fâchent. Autrement, c'est trop amusant.
Parce que moi, j'oublie assez vite et j'ai une question.
Alors, je vous en prie, madame.
Je suis désolée, j'ai une maladie, j'oublie très vite. Vous savez, il y a 2 ans, ou 3 ans, je crois, à Paris, il y a eu un monsieur, mais il avait parlé de l'islam, c'est ça, en cours.
Samuel Paty, tout à
l'heure.
Samuel Paty, oui, on parle de Samuel
Paty. Il s'est fait trancher la tête.
Oui.
Et est-ce que vous avez eu ce même genre de problème, enfin, ou des réflexions?
Bon, alors écoutez.
Pas tranché la tête.
Mais... Non. Alors écoutez, madame étant là, donc on peut considérer qu'on lui a pas tranché la tête.
Oui, voilà.
C'est déjà je vais y répondre.
Non, mais la question. Alors, je vais poursuivre votre question qui fâche, d'accord? En vous disant que voici 21 ans, un collectif d'écrivains sous la direction de Georges Bersoussan, qui à l'époque signait Emmanuel Brenner, avait écrit un livre qui à l'époque était considéré comme un livre complètement fou, qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Dans lequel il décrivait notamment le fait que dans certains quartiers dissensibles, eh bien, il y avait une détérioration du tissu social et aussi, petit à petit, la difficulté d'enseigner certaines matières. Alors, on parle de la Shoah en terminale, donc. À des étudiants, plutôt à des élèves qui se préparent au baccalauréat, dont on peut espérer qu'ils ont un certain bagage. Mais on a tous des récits de difficultés pour certains de vos collègues, par exemple, de parler du journal d'Anne Frank, de parler de la Shoah. Tout à l'heure, dans la table ronde à laquelle nous avons assisté, nous avons eu le témoignage d'un professeur qui est peut-être dans la salle, je ne sais pas trop, qui a été accusé d'islamophobie. Je ne vous ai pas cité le sondage plus en finesse, mais pour certains lycéens, non seulement on parle trop de la Shoah à l'école, mais on devrait peut-être s'intéresser à d'autres problèmes. Donc pour poursuivre la question, donc vous avez raison, madame, une expression tragique a été il y a 2 ans l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce que vous, en tant qu'enseignante, et je dirais, je vais élargir la question, est-ce que, non pas votre sentiment, mais est-ce que la réalité des choses, c'est, vous avez dit vous-même que vous étiez l'une des rares qui consacrait plus de 2 heures à enseigner la Shoah, puisque vous avez fait tout un travail pédagogique qui a abouti donc à un voyage à Auschwitz, à ce film, à ce livre. Alors, est-ce que vous avez l'impression que l'enseignement de la Shoah, aujourd'hui, on ne le fait pas, ou on le fait mal, parce que ce n'est plus politiquement correct? Parce que 78 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on se dit, ben, on passe à autre chose. Au fond, quel est véritablement l'état des lieux aujourd'hui?
Alors la question est peut-être simple, mais la réponse elle est extrêmement difficile. Hein, déjà.
À quelle heure est votre train?
Demain matin.
Sur les parents, en fait.
Ah, c'est pas seulement ça, c'est qu'un établissement scolaire, il s'inscrit dans un quartier, dans un territoire, avec des populations qui vont être extrêmement diverses, avec des enseignants très divers. Nous avons quand même, il faut peut-être le dire honnêtement, que nous avons des enseignants d'histoire-géographie négationnistes. Il faut le dire. Voilà, il y a un établissement à Strasbourg où il y a une collègue négationniste. Voilà, donc c'est aussi la réalité. Donc, je veux dire, il faudrait être honnête complètement et voir tous les aspects de la chose. Moi, j'ai la chance d'être dans un lycée rural. avec des élèves, je dirais, qui suivent. Il y a une communauté turque musulmane très importante. Je n'ai jamais eu de difficulté à travailler avec des élèves d'horizons divers. Je ne dirais pas la même chose pour certains collègues dans certains collèges strasbourgeois ou lycées strasbourgeois. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas une chose qui va être facile. Après, je pense aussi que l'approche d'un thème si compliqué demande réflexion et comment on va l'intégrer, comment on va l'aborder. Ça, c'est aussi ça. C'est clair qu'on peut avoir un contexte immédiat d'actualité qui favorise ou qui ne favorise pas. On peut avoir des influences. Voilà, ça c'est la vie au quotidien. Moi, finalement, je rentre dans la Shoah à travers un travail de recherche qui va s'appuyer aussi sur des compétences au niveau des élèves. Aussi, voilà. Mais il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, et aussi la difficulté. C'est que si un élève n'accepte pas ou refuse, ou un groupe d'élèves, ça va être très compliqué. Oui, ça, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Voilà, j'ai pas de solution miracle. Voilà.
Alors, je vais faire réagir Colombe Chinec et après je vais faire une observation sur l'observation.
Oui, c'est une question importante et intéressante, d'autant que vous l'avez dit, vous n'êtes pas juive. Et pourtant, vous avez bien compris que c'est une histoire universelle. Ce n'est pas une histoire qui concerne les Juifs. C'est un crime contre l'humanité. Et je veux dire que quand j'ai travaillé sur l'histoire de ma famille, après la réparation, les gars de mon père, différents livres que j'ai faits les uns après les autres, je me suis beaucoup appuyée sur des textes, sur des génocides qui n'étaient pas que le génocide juif. J'ai par exemple beaucoup travaillé avec les livres de Ritipan, en particulier l'élimination qui se passe au Cambodge, et où il y a exactement le même processus. C'est pas une destruction industrielle d'être humain, mais il y a une destruction d'un groupe de population avec les mêmes étapes, les mêmes effets, par exemple sur le silence dans les familles cambodgiennes. Il y a eu le même silence pendant des années. La difficulté de transmettre cette histoire. Mais on peut parler de la même chose avec le génocide arménien. On peut parler de la même chose avec ce qui s'est passé au Rwanda, et je ne sais pas si vous avez lu le livre de Scholastic Mugakomba qui raconte les déflagrations dans les familles et la sidération et le silence. Et je crois que peut-être c'est une des portes, ce n'est pas une histoire juive, c'est une histoire universelle. Les génocides, les Juifs n'ont pas été les seules victimes de génocide, c'est un génocide industriel qui est particulier. Mais je dirais qu'il faut bien l'inscrire aussi dans une histoire qui nous concerne tous. Je crois que il me semble que c'est un des moyens peut-être de répondre à certains qui diraient pourquoi les Juifs et pas les Rwandais, pourquoi et pas les Cambodgiens et pourquoi pas les Arméniens. Ça me paraît peut-être une voie.
Ah oui, alors moi il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que très froidement, très calmement, vous annoncez, vous savez, à Strasbourg, il y a une prof qui est négationniste. Alors négationniste, ça veut dire je nie la Shoah. Et depuis la loi Guesso de 1981, le négationnisme est puni par la loi. Alors ma question est d'une naïveté complètement fausse. Ailleurs, je vous aurais dit, mais que fait la police? Là, je vous dirais, mais que fait l'éducation nationale?
Je ne peux pas botter en touche.
Maintenant, on va vous prendre. Attendez, je vous propose que non seulement vous puissiez poser des questions, mais que vous laissiez les intervenantes y répondre. Hein, vous êtes d'accord? Formidable, c'est gentil.
Vous savez, je dirais le métier d'enseignant, c'est une profession libérale dans un cadre public. Donc finalement, quand on est dans la salle, on est tout seul, hein. Voilà. Donc oui, il y a eu des remontées, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de redescente, je dirais, hein, et malheureusement. Donc on n'est pas forcément... alors je vais peut-être un peu... le ministre de l'Éducation nationale n'est pas venu, donc ça va. Je vais un peu taper sur l'Éducation nationale, mais vous savez qu'on fasse à peu près bien son boulot on n'est pas plus récompensé ça et qu'on le fasse pas trop bien, on n'est pas plus sanctionné que ça. Donc là, je vous réponds un peu, je botte en touche, hein, voilà, voilà, c'est la réalité. Alors quand on me dit que l'école est malade aujourd'hui, oui, je l'entends bien, hein, je sors un peu du sujet, mais la question est politique. Bah, il faudrait faire un grand nettoyage de printemps et prendre ses responsabilités politiques. Et pour l'instant, je le vois pas venir. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours eu un soutien par rapport aux travaux que je fais, puisque j'utilise mes heures d'éducation morale civique pour mes recherches. Donc, j'ai vraiment eu un soutien de la direction. Mais après, je peux vous dire que mes collègues d'histoire-géographie, c'est pas l'enthousiasme fort. Mais après, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer. Voilà. Mais on est un peu de cette particularité où on pense que l'école, elle devrait être universelle. Elle est nationale, je crois. Mais le problème, c'est qu'elle est sûrement pas équitable avec tous les enfants, avec tous les élèves, et après aussi avec d'autres, je dirais acteurs. Hein, c'est bien sûr les familles qui aussi là peuvent intervenir dans un sens ou d'un autre. L'environnement, enfin voilà, il y a d'autres acteurs, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse. Hein. Je suis pas ministre de l'Éducation nationale. Et c'est pas moi qui mène cette politique, mais oui, on est vraiment. Vous savez qu'il y a un ancien ministre qui disait que on était géré. C'était le mammouth, hein, vous rappelez l'expression. Pendant très longtemps, vous savez, moi je commence à être une vieille de l'éducation nationale, et je pense que ça va vous faire l'allusion. On était aussi bien géré que l'armée rouge.
Non, je vois pas.
Oui, bon, la claire armée rouge, je crois qu'il a quelques problèmes ces temps-ci. Alors, je crois que madame, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, madame, vous vouliez poser une question, je crois. Alors, venez près de nous, comme ça. Ne soyez pas timide, on ne vous mangera pas, c'est promis.
Non, non, madame, non, madame, non, 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 non. Là, je suis obligée de réagir.
Il n'y a pas le concordat.
Non, non, par rapport à vos derniers propos, il y avait ce qu'on appelle des cours de religion. Voilà, des cours de religion. Sachant qu'aujourd'hui, les cours de religion en lycée n'existent plus. Les familles faisaient dérogation pour que les enfants n'y aillent pas. Et aujourd'hui, ils doivent se manifester pour qu'ils puissent y aller. Donc, ça existe encore en collège. Sachant que... il y a en effet des cours de religion qui ressemblent plus, je dirais, à des cours d'apprentissage des religions. C'est-à-dire que c'est pas du catéchisme, hein, c'est pas un cours qui diffuse une religion. Donc aussi bien il y a des collègues protestants, des collègues catholiques, et il y a aussi des cours de morale, voilà, à côté, hein, donc il y a ces trois possibilités. Et par rapport, disons, à ces cours de religion, c'est plus les cours de religion, voilà, de prosélytisme religieux. C'est pas ces cours-là qui vont mettre en danger la laïcité, parce que ça représente tellement peu d'élèves que c'est pas le cas. La laïcité, parce que moi je fais partie du groupe de formateurs académiques, hein, de l'Alsace, c'est des sujets qui sont bien plus graves, et je pense qu'il faut faire attention aussi. Nous, en tout cas, on enseigne les faits religieux, et je pense aussi, et là finalement sur les manques, par exemple, moi je suis professeur d'histoire, essayer d'étudier un tableau du Moyen-Âge et un tableau de la Renaissance alors qu'il n'y a aucune culture religieuse, je peux vous dire que c'est pas une mince affaire. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que la religion, les religions, fassent partie de la culture générale. Et aujourd'hui, elles ne le font plus. Voilà, elles n'en font plus partie. Et la laïcité permet cet enseignement du fait religieux. On ne fait absolument pas du prosélytisme, hein, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et après, dans la laïcité, c'est le fait de la respecter ou de ne pas la respecter qui va poser problème. Mais on peut pas dire, ça, on peut jamais généraliser. On peut pas généraliser dans l'éducation nationale.
Est-ce que la grande erreur ne serait pas de confondre laïcité et laïcisme? Est-ce que le problème n'est pas de là?
Oui. Mais on va revenir au sujet. Hein, parce que là... alors, si vous le permettez, je crois qu'il y a une autre table ronde qui est consacrée à la laïcité, me semble-t-il. Alors, si vous voulez, on va revenir à notre sujet, qui est la transmission de la Shoah, qui reste un problème fondamental en 2023. C'est... prenons Schneck, en parlant de vos enfants, vous avez employé le mot soulagement. Tout à l'heure. Je vous le passe en replay ou vous en souvenez? D'accord, vous en souvenez. D'accord. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est un jour, je vous souhaite de connaître le plus beau métier du monde, qui est de devenir mamie. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous auriez envie que vos petits-enfants sachent ce qu'ont été vos parents et vos grands-parents?
Évidemment. Je ne sais pas si mamie est le plus beau métier du monde, mais...
bon, vous verrez à l'usage. Hein.
Peut-être, je serai très heureux d'être grand-mère un jour, j'espère que je serai. Oui, c'est évident que je... Peut-être, on sait toujours que les relations entre les petits-enfants et les parents sont plus aisées. Mes grands-mères ne me parlaient pas, ou vraiment c'était des... C'était infiniment douloureux pour elles de... Je me souviens, quand je faisais des recherches, j'avais interrogé un de mes parents qui s'appelle Élie Bizin, qui est mort récemment, et qui a déporté à Auschwitz, il avait 15 ans, et il me disait, mais quand... Pour moi, revenir en arrière, c'est tomber dans la fange. Et j'ai mis des années et des années à pouvoir parler. Mes parents sont morts trop jeunes pour, transmettre une histoire. Mais ils avaient chacun une phrase qui résumait ce qui leur était arrivé pendant la guerre. Mon père était caché à Périgueux, parce qu'il est victime, où je fais beaucoup de recherches dans la région. Et il a été caché quelques mois en Haute-Garonne, dans une famille de résistants qui appartenait au marquis de Vabre. Et il disait, j'ai passé les années les plus heureux, les mois, je sais pas si c'est les mois ou les semaines les plus heureuses de mon enfance ici en Haute-Garonne, où j'ai appris à pêcher la truite à la main. Donc la guerre, pour lui, se résumait à avoir appris à pêcher la truite à la main en Haute-Garonne. Et ça s'arrêtait là, il n'y avait rien d'autre à raconter. Et ma mère, qui a été, elle, cachée à Clermont-Ferrand, puis dans un couvent, disait, et puis a perdu une grande partie de sa famille, disait... C'était horrible parce que j'étais cachée dans ce couvent, il y avait des grosses tartines de pain noir avec un tout petit peu de confiture horrible, comme si autour, comme si lors de la guerre se résumait à cette tartine de pain noir. Rien n'était raconté. Mais je vois bien aujourd'hui combien c'est en moi, même si je suis soulagée, même si je m'en débarrassais, même si en pensant écrire, c'est Deleuze qui disait il faut beaucoup de mémoire pour se séparer du passé. Donc j'ai vraiment livre après livre, j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'en débarrasser. Et il m'est arrivé quelque chose quand j'écrivais Mensonge au paradis, donc qui se passe en Suisse, a priori loin en fin de la Shoah, dans une vallée protégée de cette histoire. J'ai pris un train, je prenais le train pour aller à Genève, et comme je pense que je ne suis pas la seule, j'étais d'une petite inquiétude au moment quand je prends un train, je suis un peu inquiète. Mais là, ça va beaucoup mieux. Voilà, je nage, j'ai grandi, j'ai fait une analyse, j'ai écrit des livres, voilà. Et là, j'ai une angoisse dans le... J'ai une barre dans le ventre, comme si j'allais passer le bac, comme si j'allais sauter en parachute, mais vraiment une très grosse angoisse. Je me dis, mais c'est idiot, je vais juste prendre un train pour Genève, dans toutes les heures, si je le rate, c'est pas grave, j'ai de me raisonner, je suis dans le métro. Et je n'arrive pas à me raisonner, je suis très, très, très angoissée. Et j'arrive essoufflée devant le panneau, à la gare de Lyon, à Paris, dont je vois bien que le train est indiqué, donc je me dis, je vais être soulagée, sachant que je suis à l'heure, qu'il n'y a pas de problème. Et je vois qu'il est indiqué avec un signe étrange, je ne reconnais pas, c'est pas un TGV français, ni un CHF suisse, donc je suis étonnée, mais je vais devant la voie, et là, c'est étrange, le train est rouge et noir, et c'est un train de la Deutsche Bahn, c'est un train allemand. Et le hasard ferroviaire a fait que voilà, ce train est allemand. Je rentre dans ce TGV, ça me paraît un peu irréel. L'intérieur est beaucoup plus spacieux, confortable qu'un TGV français. Je m'assois, mais l'envoi, c'est toujours là. Je ne sais pas où je suis, en fait. Et je cherche mon billet de train. Et tout d'un coup, je ne trouve plus mon billet de train, bien sûr, je le retrouve dans la poubelle de mon téléphone. Et là, je pense à une blague que me faisait ma mère. Ma mère racontait deux choses, en fait, sur la Shoah. Il y avait deux transmissions. Il y avait l'histoire de tartines et il y avait une blague qu'elle racontait, ce petit sourire qu'elle avait, voilà, léger. Elle disait, maintenant qu'on va en Allemagne, il faut payer son billet de train. Et j'avais mon billet de train. Je pense à cette blague de ma mère, j'ai sourire. J'avais mon billet de train, j'étais... Et pas de problème, et le, cette inquiétude a disparu. Mais quand même, je me demandais comment mon corps avait pu deviner que ce train était allemand. Et en arrivant en Suisse, j'ai retrouvé un des anciens avec qui j'étais protégée dans cette montagne suisse, qui est devenu médecin, et je lui racontais cette histoire, je trouve que c'était une bonne histoire, comme je vous la raconte, c'est une bonne histoire. Comment mon estomac avait... Est-ce que mon estomac a un don de voyance, a pu deviner que c'était un train allemand? Enfin, j'avais plein de questions comme ça... Et il m'a dit, mais en fait, tout simplement, ton œil a enregistré l'information sans que tu saches que c'était un train de la Deutsche Bahn. Mais il dit, ce qui est intéressant, c'est que pour toi, né plus de 20 ans après la guerre, prendre un train allemand reste dangereux. Potentiellement dangereux. Et il m'a raconté ce qu'on a, je pense que vous connaissez peut-être tous, que c'est que l'épigénétique, c'est-à-dire que le stress se transmet à travers les gènes. Et que le stress de mes parents, de mes grands-parents, s'est transmis de ma mère, en tout cas, qui était extrêmement inquiète, angoissée, qui, je pense, n'est jamais sortie du couvent dans lequel elle était cachée, qui avait extrêmement peur d'antisémitisme, qui n'avait que des amis juifs tellement elle avait peur d'être accusée, qui se sentait coupable en permanence. C'est un filtre et en moi. Et que, voilà, dans mes gènes, prendre un train allemand reste quelque chose de dangereux. Faut dire que la transmission de la Shoah se fait par multiples biais, mais aussi par le corps. Et moi qui me pensais être enfin débarrassée de cette histoire, je vois que je ne m'en débarrasserai jamais. Elle sera toujours là et je dois faire avec.
Merci. Alors, je voudrais vous poser des questions non plus à l'enseignant, mais à l'élu. Vous êtes maire donc d'un village. Et je voulais vous demander, donc vous qui, vous l'avez indiqué depuis de nombreuses années, vous vivez avec la Shoah, il y a une recommandation qui, même pas une recommandation, mais une directive qui a été faite après, je crois que c'était en 1992-93 par le président de la République qui indiquait que chaque année, à l'occasion de ce qu'on appelle la rafle de Veldiv, ça deviendrait une journée nationale de commémoration contre ce qu'on appelait les crimes racistes et antisémites de l'État dit de Vichy, et qu'un peu partout dans les chefs-lieux, donc à Strasbourg en ce qui vous concerne, il doit y avoir une cérémonie. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, et ça renvoie à la transmission de la Shoah, autrefois, au fur et à mesure que disparaissaient les anciens combattants de la guerre 14-18, puis de 39-45, à part les officiels dont c'est le job, ils sont obligés de venir, il n'y avait pas grand monde. Est-ce que vous avez l'impression, ou la réalité des choses, c'est que ce type de commémoration, ça attire des gens et surtout, est-ce qu'on est capable de parler à la nouvelle génération dont la culture se résume aujourd'hui, non pas à la lecture de Anne Frank ou à avoir vu Shoah qui dure 8 heures de Lanzmann, mais qui se résume dans le meilleur des cas à un SMS ou à TikTok. Alors, et ça renvoie donc au problème de est-ce qu'il faut transmettre et comment on est capable de transmettre, au-delà de votre expérience qui est magnifique, je dirais à la grande masse, comment on est capable de transmettre à la nouvelle génération ce qui s'est passé pendant la guerre 39-45.
Oui, c'est une vraie difficulté. Hein. Là, je vais plutôt répondre en tant qu'élu, en effet, en tant que maire. Moi, quand je suis arrivée donc, à Bösselshausen en 1999, il n'y avait pas de monument aux morts. Donc pour moi qui viens, enfin, qui a une partie de ma famille qui est originaire de Normandie, quand il n'y a pas de monument mort, ça veut dire qu'il n'y a pas de victime. Et pour moi, donc, il n'y avait pas de victime. Alors ça avait fait polémique, hein, parce que bon, il y avait une plaque avec des morts de la Première Guerre mondiale qui était dans le clocher de l'église. Pour la Seconde Guerre mondiale, il y a juste un verset de Jean, voilà, dans l'église, donc il n'y avait aucune identification. Et là, je vais faire le parallèle avec ce que je fais avec les élèves. En 2010, j'ai fait ériger un monument aux morts avec les victimes à la fois par rapport à l'Alsace, morts sur le front du côté avec uniforme français et ceux avec uniforme allemand. Donc là, ça a donné un travail de recherche. J'ai récemment participé fin avril dans le cadre de Yom HaShoah à des commémorations par rapport à la tragédie de Puy-de-Guéry qui a touché des Juifs d'Imbillère, mais une commémoration en plein Bourges, hein, donc c'est un peu plus grand que Bosholzhausen, hein, 180 habitants, Bosholzhausen, Bourges un peu plus. Moi, ce qui me révolte, c'est que je vois les gens passer. Il y a des commémorations, il y a un certain nombre de gens qui sont là, voilà, en train de rendre hommage, et il y a relativement peu d'implication de la population. Et je parle pas que des jeunes. Voilà, je parle aussi. Donc ça, je crois qu'on a un vrai travail par rapport à ça, par rapport aux commémorations, finalement, qu'est-ce qu'elles représentent. Alors on peut se dire que c'est loin, qu'on connaissait pas les victimes, enfin on peut mettre tous les arguments en avant, mais je pense que c'est une vraie difficulté. Et moi, c'est vrai que dans le cadre du projet que je fais avec les élèves, on a été amené l'année dernière à faire différentes commémorations, puisque je travaille avec une première STMG, la dernière terminale STMG qui était classe de défense. Donc on fait des commémorations, on participe à des commémorations. Et par rapport à cette année, par exemple, on leur a demandé au 8 mai, de façon autonome, indépendante. Pour moi, il ne s'agit pas toujours d'emmener les élèves. Hein. Je ne suis pas parent, je ne suis pas éducateur. Hein. Je n'aime pas du tout ce terme. Il faut qu'à un moment donné, on se prenne en charge. Et donc on a demandé aux élèves de participer à une commémoration du 8 mai au Monument aux Morts. Voilà, la plus grande majorité l'a faite. Voilà, mais il faudrait que ce soit tous les adultes, hein. Moi je vous rends acteur, c'est chacun qui doit faire, c'est pas juste quelques-uns, et je pense qu'en effet il faut sûrement qu'on travaille sur un lien, une identification, surtout je dirais quand on est confronté aujourd'hui à une guerre. Et nous, on vit tranquillement en paix, enfin je le dis de façon un peu provocatrice, hein. Je dis qu'on vit dans un luxe ordinaire dont on ne savoure pas la chance. On a la guerre à nos portes. Et là, il faut arriver à faire comprendre aux élèves qu'il peut y avoir des processus qui amènent à rompre ces situations de paix. Et c'est à chacun de faire. Et moi, finalement, le travail que je fais, tout à l'heure, je vous ai évoqué le terme de transmettre un à un. Je pense qu'il faut que... on ne peut pas évidemment se mettre à la place d'eux, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est évidemment qu'on prenne conscience des parcours tragiques et qu'il y ait identification. Moi je travaille sur des élèves de notre lycée, on a trouvé des photos qui datent de 1942, ils ont le même escalier, le même couloir, même classe. Et je pense aussi que l'intérêt, évidemment, pour les élèves, et je rejoins peut-être indirectement la laïcité, je travaille sur les discriminations, je travaille sur l'antisémitisme. Je ne fais pas un cours magistral sur l'antisémitisme. Je ne fais pas un cours magistral sur le racisme. Je travaille sur des parcours de gens qui ont été contraints de partir, voilà, pour expulser de leur maison, enfin de leur logement, et puis ensuite qui ont été exterminés. Et finalement, les élèves sont aussi, eux, conscients de ces discriminations. Il ne faut pas douter, hein, on amalgame, moi je ne doute pas de la jeunesse. Je doute d'une marge, oui, comme je doute d'une marge d'adultes, qui sont des extrêmes et qui œuvrent beaucoup à diffuser des discours qui sont totalement condamnables. Voilà, je le dis ouvertement, je ne suis pas politiquement correct et en général, je dis ce que je pense.
Bon, alors, moi, Jean-Luc, quand on est avec vous, Colomb, Chinec, on aille un peu plus loin. Bon, parce que, comme je le disais, les commémorations, ça n'intéresse pas grand monde, sauf les élus qui sont obligés de venir, mais vous n'aurez pas la foule qui ne viendra pas. Vous êtes une femme de médias. Et donc... vous êtes amené à toucher non seulement à ce que j'appellerais les médias traditionnels, mais les nouveaux moyens de communication. Alors, à votre avis, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et si oui, comment faire pour attirer la conscience des nouvelles générations, et je reprends un petit peu vos termes, sur la Shoah, mais sur les autres génocides? Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit inventer?
Alors, une chose que je fais, par exemple, je travaille dans une station à Roubaix. Roubaix est une ville qui a été détruite par la désindustrialisation, qui est à 70% musulmane. Et je suis allée la première fois il y a un an pour une masterclass consacrée à l'atelier d'écriture, et maintenant j'y vais régulièrement. La première chose que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé de se retrouver tous à la médiathèque de Roubaix. Il y a une très belle bibliothèque à Roubaix. Ce sont des jeunes qui sont avides de lire, d'apprendre, d'apprendre, qui sont curieux, intelligents, drôles. Je ne sais pas si vous avez les mêmes élèves, mais moi j'ai été impressionnée par leur curiosité, par leur intérêt, par leur désir d'apprendre. Et ce que j'ai fait, c'est qu'on va à la médiathèque. Et à la médiathèque, il y a des livres, il y a des documentaires, mais aussi il y a des livres. Je trouve que ce n'est pas la peine d'aller chercher des TikTok, tout ça. On va à la médiathèque dans toutes les petites villes et villages et villes de France. Il y a des très bonnes bibliothèques. On s'inscrit, c'est quasiment gratuit, c'est assez facile d'avoir sa carte. Et là, on fait des groupes de lecture où je leur conseille des livres sur les sujets qui les intéressent. Bon, ça peut être la musique, mais ça peut être, si c'est la Seconde Guerre mondiale, eh bien, je leur raconte mon histoire, je leur raconte d'autres histoires, je leur raconte d'autres histoires de génocide. Et on va chercher les livres de Ricky Pan, on va aller chercher des livres sur les... Beaucoup, il y a certains enfants d'origine arménienne, ça les intéressait, par exemple, d'avoir d'origine africaine, d'aller chercher des livres de Scolastique ou de Kakomba sur le Rwanda, et d'aller chercher et de lire, de s'informer, d'apprendre. Il y a 15 jours, j'étais avec un groupe d'étudiants, enfin pas des étudiants, mais des lycéens qui font une école pour devenir assistante sociale à Nîmes. Et ils avaient travaillé sur un livre qui s'appelle « Une été à Brooklyn », qui est l'histoire d'amour entre une jeune femme juive et un intellectuel noir américain. Et j'ai eu quelques remarques antisémites dans le groupe. Elle se voulait pas antisémite. Trois élèves, une jeune femme blonde, un garçon un peu plus m'ont dit « Vous ne pouvez pas nier quand même que les Juifs sont privilégiés. » Ce qui revient à « Vous ne pouvez pas nier qu'on dit trop la Shoah. » Je ne me suis pas du tout énervée. J'essaie de comprendre d'où venait cette information. Donc elle venait, on voit beaucoup les Juifs à la télévision, on ne voit pas quand les Arabes sont victimes, etc. Je leur dis, je vois que l'histoire des Juifs t'intéresse beaucoup. Ça t'intéressait beaucoup, les Juifs, la place des Juifs, les questions juives. Eh bien, lis. Va lire sur l'histoire des Juifs. Va lire. Va, tu t'intéresses aux Juifs et aux musulmans. Il y a un excellent documentaire sur Arte, une histoire des Juifs et des musulmans depuis l'Antiquité. Regarde ce documentaire sur Arte. Et après, on en reparle, si tu veux. Certains élèves étaient très choqués que ces trois élèves aient pu dire c'est un fait, je suis pas antisémite, mais les Juifs sont privilégiés, etc. Et bien deux de ces élèves qui m'ont dit ça m'ont écrit dans les 15 jours, ils m'ont envoyé un message sur Instagram pour me dire j'ai lu La Réparation, j'ai lu votre livre, effectivement ça m'intéresse, vous avez raison, il faut que j'apprenne plus sur qui sont les Juifs, parce qu'on ne sait pas qui sont les Juifs. Je leur dis aussi que les Juifs ça n'existe pas, c'est comme les blondes, ça n'existe pas. Il y a des individualités, des personnes qui ont telle ou telle histoire, mais déjà c'est le début de la dictature. Et vous disiez tout à l'heure, j'aimais beaucoup de transmettre, c'est un, une personne par personne. Et je dois dire que j'étais assez heureuse de cette discussion. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils me le disent, que ça soit, les mots soient, que les phrases, leurs angoisses, parce que penser que les Juifs sont privilégiés par rapport à eux, c'est une angoisse. Ça veut dire que pourquoi moi je ne suis pas privilégiée, pourquoi les Juifs ont des avantages, c'est qu'ils expriment une angoisse. Et bien de répondre à cette angoisse par l'information, le savoir, la lecture, la connaissance, je pense que c'est la meilleure réponse. Donc je ne sais pas celle que vous attendez, c'est pas Instagram, mais quand même à la fin, c'est mis par Instagram, parce que c'est pas le message.
Oui. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Oui, madame.
Je suis désolée. Hein.
ne soyez pas désolé.
J'ai surtout une question pour madame et
je vous en prie.
Par rapport à votre histoire. Et simplement, tout à l'heure, vous avez, je voulais savoir, c'est très cool. Les parents, c'est les parents le problème? Est-ce que vous avez des problèmes avec les parents? Bon, Samuel Paty, c'est pas lui qui a coupé la tête.
Mais je disais, c'est pas le même rapport avec notre débat.
Non, c'est pas le sujet, madame. C'est d'accord. Pas le sujet, hein.
Okay.
Non,
il y aura un autre débat, je pense.
Oh, d'accord. Oui. Alors, ok. Alors, la question est carrément par rapport à ce que vous avez vécu. Moi, j'ai une grand-mère qui a été emportée 3 jours par les Allemands, qui est revenue 3 jours après. Alors, on dit que c'est peut-être impérieux, je ne sais pas. Elle n'a jamais voulu le raconter. Ou alors, peut-être ma marraine, je ne sais pas. C'est qu'elle a raconté à la fin de sa vie un psychiatre. Et moi, j'en souffre énormément. J'en parlais encore tout à l'heure à ma fille qui est là-bas. Je lui ai dit, mais c'est son choix de ne pas en avoir parlé. Mais la transmission, moi, j'en souffre.
La transmission, c'est pas fait. C'est une rupture de transmission.
Et moi, honnêtement.
Je comprends, oui.
J'en souffre. Je peut-être comprends. Que les autres cousins. Ça, voilà. Mais moi, j'en ai toujours souffert.
Bien sûr. La transmission est très.
C'est terrible.
Transmettre est très, très. Voilà, transmission. Un dé ou un autre, parce que donc, moi, c'est pas là. Les paroles ne sont pas faites. Ne sont, dans ma famille, voilà, elles n'ont pas été dites par mes parents. J'étais pas capable d'entendre quand elles étaient encore en vie, mais elle s'est transmise dans mon sang comme elle se. De toute façon, génétique, hein, je suis pas médecin. Donc, il faut trouver un moyen de savoir. Quoi.
Apparemment, moi, je le saurais pas.
Alors, il y a Bernard Virego ici qui est un type extraordinaire, qui a longtemps travaillé aux archives de Périgueux. Vous pouvez peut-être retrouver la fiche d'arrestation de votre grand-mère.
Ah ben j'irai,
carrément. Allez voir Bernard Rivière-Louis de mon côté là.
Oui,
il est plus lâché de Périgueux. Et moi, il m'a énormément aidé. Il les connaît par cœur. Il peut vous. Ça vaut le coup, il vous dira comment faire, où aller. Et peut-être que vous trouverez la fiche. Bernard Rivière-Louis. C'est mon héros.
Ah ben j'ai acheté son livre.
J'ai acheté
son livre.
Voilà. Et il peut peut-être retrouver la fiche d'arrestation de mon grand-mère. C'est possible.
Oui, je crois qu'il y a une question, monsieur.
C'est une question, une remarque, peut-être pour relier un petit peu vos deux discours, entre les commémorations et puis ce que vous sentiez dans votre corps. Peut-être qu'on ne peut pas intellectualiser certaines choses, nous sommes supposés des êtres de raison, mais je crois qu'on est avant tout des êtres de sensation. Et peut-être que c'est l'art, c'est l'écriture, enfin l'art sous toutes ses formes, la musique, la sculpture, la peinture, qui peut le mieux transmettre ce type d'histoire difficile, peut-être toutes les histoires d'ailleurs. Mais je crois que c'est Georges Sandpin qui, de retour des camps, s'est bien théorisé ça en disant qu'il fallait à la fois témoigner, raconter l'histoire et même la romancer un petit peu pour pouvoir la transmettre. Parce que la transmettre telle qu'elle brute dans sa vérité supposée absolue, c'est presque incompréhensible pour l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez.
Mais oui.
Je peux répondre. Ouais. Alors, Sandpin, il a commencé par dire qu'il avait tout oublié. Une espèce d'amnésie volontaire, incapable de se souvenir. Je crois qu'on a tous, ma génération, avec nos moyens différents, on est nombreux à écrire, à faire des films, à dessiner, à faire de la musique, trouver des. Ou comme Alain, à faire un travail historique. Il y a plein de moyens, en fait, de transmettre. Il n'y a pas un moyen qui serait plus intéressant ou fort. Chacun a un moyen de transmettre quelque chose, de transmettre l'histoire.
Voilà, alors je pense que en participant à cette rencontre, au fond, vous avez voulu à la fois vous informer, dialoguer avec nos deux intervenantes que nous remercions, et finalement vous dire que vous aussi, vous aviez une forme de responsabilité qui est de ne pas être des citoyens du silence, mais ce que vous savez, et bien d'approfondir vos connaissances et de les partager, de les transmettre autour de vous pour que nous respirions mieux dans cette France où quelquefois il y a des nuages qui ressemblent à une autre époque et qu'on n'a pas envie de retrouver. Nous vous remercions. Merci.